Chapitre 12. Ike gara le pick-up sous un lampadaire à l'ampoule cassée, entre un scooter rose bonbon et une voiture si petite qu'il aurait certainement pu la soulever d'une seule main.
« C'est la première fois que je viens ici »,
avoua Buddy Lee. « Moi, j'étais là pour la pendaison de crémaillère, juste après qu'il... Enfin, juste après tout ça, Mia m'a dit qu'on devrait repasser pour faire du tri. Deux mois plus tard, on n'a encore touché à rien. » La pendaison de crémaillère. Une soirée de plus qui s'était terminée par des cris et des portes claquées. Ike et Buddy Lee sortirent du pick-up et remontèrent côte à côte le trottoir bordé de chênes fraîchement élagués, dépassant régulièrement quelques râteliers à vélo qui se dressaient tels des haies métalliques entre les lampadaires.
« Ça a bien changé par ici, » commenta Ike.
« Ah ouais ?»
Dans le temps, le quartier était tenu par un gros caïd. Les gars avec qui j'étais avant Coldwater, on se fournissait souvent auprès de lui. Et quand on venait s'approvisionner, il y avait une maison sur deux qui était occupée par des junkies. De jour comme de nuit, t'avais des craqueurs qui déambulaient comme des zombies et qui te proposaient que leur nana te taille une pipe pour une dose. En dernier recours, certains étaient prêts à se mettre eux-mêmes à genoux. Une fois, le caïd en question m'a demandé un service, et j'ai arrosé toute la rue à la calache, avant de retourner tranquillement à Red Hill.
T'en avais après qui ?
Honnêtement, je me souviens plus. Un de ses concurrents, j'imagine. Ou peut-être des gars avec qui ses potes s'étaient engueulés en boîte. J'ai oublié. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, j'ai pas mal enchaîné les conneries sous prétexte de me faire une réputation. Il a fallu que je me retrouve en tôle pour comprendre que la réputation, ça sert à rien.
Pour ce qui est d'enchaîner les conneries, je me défends. Mon dernier séjour en cabane, j'ai porté le chapeau pour quelqu'un d'autre.
Sérieux ?
Ouais. Avec mon frangin, enfin, mon demi-frère, Dick, on s'est fait serrer avec le coffre rempli de mètres, une livraison pour un gars qui s'appelait Chully Pettigrew. Dick avait pas de casier alors que le mien était long comme le bras. Je voulais pas que Dick tombe. Il était pas fait pour cette vie, il aurait pas tenu un mois en prison. Je me suis donc arrangé pour que ce soit sa première et dernière livraison. J'ai pas balancé Chully, j'ai dit que Dick était pas au courant pour la cargaison... Et j'ai écopé de 5 ans ferme, sans remise de peine possible. Dick, lui, a déménagé sur la côte ouest, et il s'est trouvé un boulot dans une entreprise qui extrait du gaz naturel. Aux dernières nouvelles, il y est toujours.
« Hum, fit Ike.
« Qu'est-ce qu'il y a ?
T'avais un coffre rempli de mètres et t'as pris que 5 ans. Si t'avais ma tête, tu serais encore en cellule. » J'ai des potes qui ont écopé de la même chose juste parce qu'ils avaient de l'herbe sur eux. De l'herbe.
Ouais.
Je t'assure que c'est vrai. Tiens, c'est là.
Ike s'arrêta devant une maison à un étage, au mur recouvert d'un bardage rouge sombre et au perron d'une belle couleur crème. Au pied de la première marche, trônait un pot de fleurs en céramique noire sur lequel on avait inscrit à la main les initiales IR et DJ à la peinture blanche. Ike sortit la clé de sa poche et ouvrit la porte. Ils pénétrèrent dans un petit hall d'entrée décoré avec goût, dont les tons bleus et blancs, avec dans un coin un porte-parapluie et, sur le mur, une patère taillée dans un gros morceau de bois flotté. On avait le sentiment que la maison tout entière était enveloppée d'un linceul, une impression accentuée par la fine pellicule de poussière qui recouvrait toutes les surfaces. La mort avait posé sa main glacée sur cet endroit et l'avait figée. Les tons bleus et blancs se retrouvaient dans le salon, où un canapé d'angle faisait face à une télévision à écran plat accrochée au mur. Sur la droite, des photos illustrant différents moments de la vie d'Isaiah et d'Erek, des voyages, des fêtes, mais également des instants de bonheur quotidien pris sur le vif. Isaiah et Derek avec Ariana bébé dans les bras. Tous les trois au restaurant coiffés de chapeaux de pirates en papier. Un cliché en noir et blanc d'Ariana soufflant sur un pissenlit. Et enfin, une photo où on les voyait avec Ariana tenant un carton gigantesque sur lequel on avait écrit en gros le mot « propriétaire ». Derek et Isaiah souriaient jusqu'aux oreilles. Ariana, elle, paraissait peu concernée. Une mosaïque de la vie qu'ils avaient vécue ensemble.
« Ils ont l'air heureux »,
commenta Ike.
« Ouais », acquiesça Buddy Lee.
avant de désigner le cliché célébrant l'acquisition de la maison. Et, visiblement, ils avaient fini de rembourser la baraque. Derek s'était promis qu'un jour il habiterait une vraie maison et pas un mobil-home. Il a tenu parole. Il claqua dans les mains et le bruit résonna dans le silence. « Bon, par où on commence ?»«
Ça irait peut-être plus vite si on se séparait », suggéra Ike. « Je m'occupe de la chambre et il me semble qu'Isaiah avait un bureau à l'arrière dans l'extension. Pendant ce temps-là, tu fouilles le salon ?»«
Ça me va. Je vais retourner tous les tiroirs. »
« Parfait. Appelle-moi si tu trouves quelque chose », dit Ike en quittant la pièce.
Buddy Lee commença par la petite console installée au bout du canapé. Des prospectus et des babioles sans intérêt. Il passa ensuite à la table basse et fut surpris de découvrir qu'elle était équipée de longs tiroirs qui pouvaient s'ouvrir d'un côté comme de l'autre. « Drôle d'idée », songea-t-il. Avant de se faire la réflexion qu'avec son carton en guise de table de chevet, il n'était peut-être pas le mieux placé pour donner des leçons de design.
Le premier tiroir renfermait tout un tas de télécommandes. Le second, quelques magazines.
Buddy Lee se tourna vers le mur de photos. C'est alors qu'il remarqua un guéridon décoratif sur lequel étaient posés deux petits cadres. Il en prit un et découvrit un Ike bien plus jeune, portant un enfant noir sur les épaules. Quand il vit le deuxième cadre, il sentit aussitôt sa poitrine se comprimer. C'était un cliché qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Christine et Derek, assis sur les marches du mobil-home qu'ils habitaient tous les trois avant son dernier séjour en prison. Christine était belle comme un soleil couchant. Des cheveux auburn qui lui tombaient en cascade jusqu'au milieu du dos, de grands yeux couleur bleuet. Et cette fossette au menton qui l'avait rendu fou le soir où il l'avait rencontrée pour la première fois, il y avait des années et des années de cela, autour d'un immense feu de joie. Il l'avait invitée à danser. Elle avait refusé. Sans cruauté, sans mépris, un simple non, manière de dire « fiche-moi la paix ». Il s'était éclipsé le temps de lui cueillir un bouquet de fleurs des champs, puis il était revenu auprès du tronc d'arbre où elle était assise avec ses amis, et il avait posé un genou au sol. « Accorde-moi une danse. Une danse et je te dérangerai plus jamais toute ta vie. »
« Promis ? Parole de scout.
Tu ressembles pas franchement à un scout. »
Toi, par contre, tu ressembles à la plus belle fille que j'ai jamais vue. Allez, je t'en supplie. Je te jure que j'essaierai pas de te ploter.
Christine avait éclaté de rire, un rire chaud comme l'été. Ils avaient dansé, s'étaient embrassés. Et ensuite, ils avaient pris la Chevrolet Camaro de Buddy Lee jusqu'au bout d'un long chemin de terre, et sous la pleine lune, ils avaient trouvé le paradis. Les premières années avaient été magiques. Malheureusement, un magicien n'étant qu'un habile arnaqueur, sa fidèle assistante avait fini par connaître tous ses tours, si bien qu'à la deuxième incarcération de Buddy Lee, Christine avait estimé que les choses avaient assez duré. Il ne lui en voulait pas de l'avoir quitté pour un sale con plein aux as. À sa place, lui aussi aurait demandé le divorce. Par contre, la façon dont elle avait rayé Derek de sa vie était inexcusable. Buddy Lee n'avait pas été un père parfait, loin de là. Mais lui n'aurait jamais renié son propre fils. Buddy Lee retira la photo du cadre et la glissa dans sa poche revolver avant de passer à la cuisine, où il fut impressionné par la quantité astronomique d'ustensiles et d'équipements ménagers qui occupaient l'espace. La décoration de la pièce avait un petit côté années 1950. Carrelage en damier noir et blanc, appareil en inox, meubles noirs et plan de travail en granit. Il fallait bien ça pour supporter le poids de toutes ces machines. Buddy Lee aurait été incapable de dire à quoi servaient la plupart d'entre elles, mais il était convaincu que son fils les connaissait toutes sur le bout des doigts. Derek avait découvert l'amour de la cuisine en voyant sa grand-mère préparer des gâteaux. Buddy Lee avait aussi un cousin, Sam, qui était un sacré cuistot. Cette passion faisait partie de l'ADN des Jenkins, même si le gène avait sauté une génération avec Buddy Lee. Pour autant, celui-ci n'avait jamais éprouvé de mépris pour le choix de carrière de son fils. La pâtisserie n'avait rien de particulièrement gai. C'était simplement un domaine dans lequel Derek était doué. Même lors de leurs pires disputes, qui restaient rares étant donné qu'ils se voyaient très peu, Buddy Lee n'avait jamais tourné son fils en dérision à ce sujet. Ça ne méritait pas une médaille, évidemment, d'autant moins qu'il lui avait balancé beaucoup d'autres horreurs. Et maintenant que Derek était mort, il n'avait plus que des regrets. Buddy Lee fouilla les placards, ouvrit les boîtes, souleva les couvercles des casseroles. Il ne fut pas surpris de tomber sur un sachet avec quelques têtes de cannabis. Il avait cambriolé suffisamment de maisons pour savoir que beaucoup de gens planquaient leurs réserves personnelles dans leur cuisine. Après avoir constaté que les tiroirs ne contenaient que des couverts, il s'arrêta et se frotta le front. Qu'est-ce qu'il fichait là? C'était une perte de temps. Il se doutait bien qu'il n'allait pas dénicher un carnet avec le nom et l'adresse de la nana, ainsi que ceux de l'assassin de son fils. Non, la seule solution, c'était de retourner à la boutique interroger l'ancien collègue de Derek. Lui faire cracher le nom du client. Soudain, la machine à glaçons du réfrigérateur émit un grognement avant de déverser quelques cubes dans le bac avec un bruit de maracas. Buddy Lee remarqua alors un bloc-notes aimanté sur la porte de l'appareil. Il s'en saisit. La première page était ornée d'une espèce de croquis évoquant un rébus. Une paire d'escarpins particulièrement bien dessinés, puis une flèche, et enfin ce qui ressemblait à une clémentine, suivie d'un point d'exclamation. En bas de la feuille, on avait inscrit à la suite deux séries de chiffres, ponctuées là encore par un point d'exclamation. Buddy Lee examina les dessins. Peut-être une blague entre Derek et Isaiah ? Pourtant, son instinct lui disait que non, qu'il s'agissait d'autre chose, de quelque chose d'important, s'il en croyait les points d'exclamation. Buddy Lee fit rapidement défiler le reste des pages, vierge, avec le pouce, avant d'arracher la première et de la fourrer dans sa poche. Il se fiait à son instinct, et c'était parce qu'il ne l'avait pas toujours suivi qu'il s'était retrouvé deux fois en prison. Buddy Lee n'était pas un génie, mais il apprenait de ses erreurs, la plupart du temps. Ike resta un long moment sur le seuil de la chambre d'Isaiah et Derek. C'était ici qu'ils dormaient, ensemble. Ici qu'ils se blottissaient l'un contre l'autre. Ike ne comprenait pas. Comment Isaiah pouvait-il ressentir la même chose pour Derek que lui pour Mia? Il secoua la tête. Si Isaiah était là, il lui dirait qu'il n'y avait rien à comprendre. L'amour, c'était l'amour, point. Sauf qu'Isaiah n'était plus là. Ike pénétra dans la pièce et entreprit une exploration méthodique. Il retira les tiroirs des tables de chevet et en déversa le contenu sur le lit. À première vue, rien de surprenant. Une lime à ongles, des gouttes pour les yeux, des pansements, un flacon de lubrifiant, ainsi qu'une impressionnante collection de serviettes à cocktail. Ike en ramassa une. Dans un angle s'étalait le mot « Garlands » en écriture cursive, au-dessus d'un logo. Il constata que la majorité des serviettes provenaient de cet établissement. Ike chiffonna le carré de papier, le jeta à la poubelle et ouvrit le placard. L'étagère du haut faisait office de présentoir à couvre-chef, casquette, chapeau en feutre, béret et même une kippa. En dessous, une penderie pleine à craquer de chemises et de vestes classées par couleur. Ike sourit. Isaiah faisait pareil avec ses baskets quand il était petit. Le sourire disparut. Ike sortit de la chambre et se dirigea vers le bureau d'Isaiah. La pièce était aussi méticuleusement organisée que le placard. Contre le mur de gauche, une bibliothèque où les livres étaient rangés par ordre alphabétique. Contre le mur de droite, un imposant classeur à tiroirs. Entre les deux, un bureau en verre, au centre duquel trônait un ordinateur. À gauche de l'écran, un téléphone fixe sans fil, qui aurait eu sa place dans un musée, et un carnet qu'Ike s'empressa d'ouvrir. Il reconnut immédiatement l'écriture soignée d'Isaiah. Les notes, en revanche, étaient truffées d'abréviations incompréhensibles. La dernière phrase était une question énigmatique. Est-ce qu'elle est au courant? Ponctuée d'un smiley qui faisait la tête. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Ce « L » correspondait-il à la fille de la fête ou bien à quelqu'un qui n'avait strictement rien à voir? Ike reposa le carnet et songea qu'il ignorait beaucoup de choses sur la vie d'Isaiah. Comment s'y prenaient-ils les flics quand ils devaient enquêter? Ike attrapa le combiné du téléphone pour consulter le journal d'appel. Il avait vu un inspecteur de police faire ça dans un film une fois. Sans trop savoir ce qu'il cherchait, il se mit donc à faire défiler des suites de chiffres qui ne lui évoquaient rien puisqu'il ne connaissait aucun des amis d'Isaiah. Personne n'avait cherché à le contacter depuis le 24 mars, le jour du meurtre. C'est alors que quelque chose attira son attention. Le 23 mars, un numéro avait appelé 8 fois d'affilée. Ike décida de consulter la boîte vocale. «
Les flics avaient certainement déjà effectué cette opération, mais ça ne coûtait pas grand-chose de se montrer consciencieux. Une voix robotique annonça qu'il y avait 12 messages archivés. Ike appuya sur lecture. La plupart des messages ne présentaient aucun intérêt, mais le dernier datait de la veille de la fusillade. Une voix haletante s'échappa du haut-parleur.
« C'est moi. J'ai changé d'avis. Je veux pas parler. J'ai trop peur. Pardon. Au revoir. »
Une femme, a priori. Et à l'entendre, elle n'avait pas seulement peur. Elle était carrément terrorisée. Ike vérifia le numéro, un fixe avec l'indicatif de la Virginie. Alors qu'il attrapait un stylo et un morceau de papier pour le noter, il ne put s'empêcher de penser « Mais dans quel merdier Derek a-t-il entraîné mon fils ?»